Place publique. L'attente se prolonge à Moutier. Bientôt un an après le vote communaliste, l'incertitude reste entière au sujet de l'appartenance cantonale de la cité prévotoise. De leur côté, les autorités bernoises, jurassiennes et de Moutier s'engagent à maintenir un dialogue constructif. Ces autorités l'ont fait savoir aujourd'hui. Alors qu'en pensent les militants? Comment les mouvements engagés apprécient la situation? Place publique ouvre la discussion dans un instant. La guerre des éoliennes n'est pas prête de s'arrêter. Les opposants se mobilisent pour empêcher la réalisation de plusieurs parcs, notamment sur les crêtes jurassiennes. Mais peut-on encore diaboliser les éoliennes un an après le vote des Suisses en faveur des énergies renouvelables? C'est notre débat après 18h30. Dans 5 semaines, la Coupe du monde de football débute en Russie. L'occasion d'aborder les enjeux politiques de cet événement planétaire pour le pays hôte, mais aussi pour la FIFA, avec le journaliste d'investigation Patrick Oberli.
Jusqu'à 19h, place publique. Gabriel Devecq.
Bonsoir à tous. Bientôt un an a passé depuis le vote de Moutier et on ne sait toujours pas si le scrutin est valide ou non. Et rien n'indique que le dénouement approche. Raison pour laquelle l'impatience grandit dans les rangs séparatistes sur fond de recours pour déni de justice et d'appel à poursuivre la lutte. De leur côté, les cantons de Berne et du Jura ainsi que la commune de Moutier appellent à l'apaisement et promettent un dialogue constructif. C'est ce à quoi se sont engagées ces trois autorités qui l'ont fait savoir aujourd'hui. Alors est-ce suffisant pour calmer le jeu ou est-ce qu'en l'absence de décision de justice, on risque d'assister à une forme de pourrissement de la situation? On pose la question à nos deux invités. Avec vous, Valentin Zuber, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes porte-parole de Moutier, ville jurassienne, bienvenue. Bienvenue aussi à vous, André Doriot, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes membre du comité de l'association Moutier Résiste. Vous visez le maintien de la commune dans le canton de Berne. Valentin Zuber, du côté séparatiste, est-ce que cet appel au calme des autorités est bien reçu? Est-ce qu'il est même nécessaire, voire même crédible?
Oui, alors effectivement, moi je pense que c'est une excellente nouvelle et je salue totalement l'attitude du conseiller d'État Bernard Poulvert, parce qu'effectivement c'était nécessaire. On va être assez clair, la situation est quand même relativement tendue parce qu'il y a de l'incertitude et puis surtout que les délais sont exagérément longs. Et puis là-dessus, il y a eu des attitudes quand même assez incompréhensibles du gouvernement bernois. Je pense à Pierre-Alain Schneck, je pense évidemment à Christophe Neuhaus. Alors, ça a tendance à tendre la situation des prévotois de tous bords qui voudraient aller de l'avant. Alors, quand M. Poulvert, avec sa stature d'homme d'État et puis son habitude à prendre de la hauteur, vient à Moutier et qu'il dit qu'il a envie que d'une chose, c'est que Moutier puisse être transféré rapidement et dans des délais raisonnables et dans un bon contexte, bien évidemment, moi je salue l'acte de cet homme d'État.
André Doriot, même question. Est-ce qu'il n'y a pas une forme, malgré tout, de double jeu avec d'un côté l'engagement des autorités qui prônent le dialogue et de l'autre, certains élus de ces mêmes autorités qui oublient leur devoir de réserve et n'hésitent pas à attiser le feu?
Je me réfère à notre maire de Moutier, qui est le maire de la moitié de la ville, pas de la ville en totalité. Et quand on voit les déclarations qu'il a faites à la fête de la jeunesse jurassienne, je ne vois pas dans ses paroles des paroles d'apaisement.
Donc vous ne croyez pas à cette communication aujourd'hui de ces autorités? Pour vous, le climat n'est pas serein comme ils s'entendent à le dire?
Mais on attend de notre maire qu'il fasse un geste. En premier, d'enlever le drapeau jurassien qui est sur l'hôtel de ville. Pour le moment, on est toujours dans le canton de Berne.
Valentin Zuber, ça passe peut-être par des actes très concrets, symboliquement. Est-ce que ce ne serait pas jouer l'apaisement de passer par là, par exemple enlever le drapeau jurassien en attendant que le sort de Moutier soit scellé?
Non mais il faut quand même juste revenir les pieds sur terre. Les prévotois ont fait un acte démocratique et citoyen qui était assez incroyable, qui a été relevé partout en Suisse. On n'a jamais vu autant de journalistes, autant de médias s'intéresser à cette situation. Et puis tout le monde, le Conseil fédéral, gouvernement bernois y compris, ont relevé à quel point les prévotois avaient été courageux, parce que tout ça s'est passé sans dommage, tout ça s'est passé dans le plus grand des respects. Et moi, je tiens aussi totalement à saluer l'attitude des différents mouvements pro-bernois jusqu'au 18 juin qui ont vraiment joué le jeu du respect de la démocratie. Et puis, le résultat connu, ceux qui appelaient alors à respecter le résultat viennent en avant maintenant. Alors, on connaissait avec des recours, avec des mouvements farfelus. Alors, si le maire de Moutier représente 50% de la population, même un peu plus, on dira, je peux vous garantir que M. Doriot représente moins de 1%. Et puis, on nous demande des actes symboliques qui n'ont aucun sens, parce que ce drapeau jurassien, il a toujours été là, il n'est pas que celui d'un canton. Moutier appartient à ce bassin-là. Et puis Moutier est une ville jurassienne maintenant. Il ne faudrait pas non plus inverser les choses. Le vote de Moutier, il est acté. Le Conseil fédéral, le gouvernement bernois, le gouvernement jurassien et les autorités de Moutier ont reconnu le résultat du vote. Alors maintenant, c'est à d'autres personnes de prouver qu'il y a eu des infractions et puis pas aux démocrates de prouver qu'ils ont voté dans de bonnes conditions.
André Doriot, c'est vrai, c'est l'impression que ça donnait dès le lendemain du vote, assez vite, l'impression que le gouvernement bernois, notamment, a pris acte de ce résultat et a déjà finalement commencé à imaginer de nouveaux équilibres sans Moutier. Est-ce que dans le fond, malgré l'attente, est-ce que le sort de Moutier n'est pas scellé? Est-ce qu'il ne faut pas quand même travailler maintenant concrètement sur ce rattachement au canton du Jura?
Non, je ne pense pas. Dans la démocratie, il y a toujours deux avis. Nous, on représente l'autre.
Qui a perdu, en l'occurrence, jusqu'à preuve du contraire.
237 voix.
137 voix.
137 voix de différence.
Mais en l'occurrence,
Est-ce que vous estimez que c'est une majorité suffisante?
Alors c'est une majorité, je crois que jusqu'à preuve du contraire, hein, bien sûr que le résultat n'est pas encore scellé, mais est-ce que comme par exemple le fait l'hôpital du Jura bernois pour son site de Moutier, qui annonce cette semaine une collaboration plus étroite au niveau de la chirurgie, est-ce qu'il ne faut pas commencer maintenant à travailler pour ne pas perdre de temps sur le transfert de Moutier?
Est-ce que vous appelez une collaboration étroite le transfert d'un chirurgien de l'hôpital de Dlémont à Moutier?
C'est une question.
Et vous appelez ça une collaboration étroite? C'est simplement un transfert. C'est une personne peut-être qui a choisi de changer, de quitter l'hôpital de Dlémont et de venir à Moutier.
D'accord. Donc, votre mouvement qui voit le jour après le scrutin, dans ce contexte d'attente et d'incertitude, c'est la preuve finalement que vous y croyez encore, que votre raison d'être, c'est que ce résultat ne soit pas validé.
La question de la validation, elle dépend des recours. Je vous rappelle que nous ne sommes pas à l'origine des recours. Moutier Résiste s'est créé au mois de janvier. Et quand M. Tsoubert parle de 1%, je vous rappelle que en 4 mois, on a réussi à réunir 400 membres.
On le voit, hein, la situation est tout sauf apaisée, raison pour laquelle on imagine les autorités ont envoyé leur message. Valentin Zoubert, à bientôt une année de cette date symbolique du 18 juin, est-ce qu'on peut s'attendre à une mobilisation particulière du côté de vos sympathisants pour marquer le coup, pour essayer aussi de marquer les esprits?
Oui, bien entendu. Alors effectivement, moi je tiens aussi à m'excuser auprès de M. Doriot. C'est une faute mathématique élémentaire parce que 400 personnes, ça fait 5% à Moutier. Donc c'est quand même 5 fois plus que ce que j'ai annoncé, mais c'est malheureusement largement minoritaire pour faire pencher la balance ou quoi que ce soit d'autre. Alors
je vous rappelle, M. Tsoubert, que ça fait 4 mois qu'on existe.
Bah, ça aurait été bien que ça fasse 2 ans que vous existiez pour rentrer en campagne avant le résultat et pas après le résultat. Les choses marchent mieux, en tout cas, quand on fait campagne avant et pas après.
Qu'est-ce qui va se passer le 18 juin, M. Devecq, peut-être répondant à la question.
Pour vous répondre, effectivement, le 18 juin, c'est une date symbolique. Elle est pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'effectivement, on commémore, hein, quelque part ce résultat historique. Et puis, on s'impatiente aussi de voir qu'en une année, rien n'a bougé. Je me range totalement derrière les personnes qui demandent de l'apaisement. Et puis, il faut le dire aussi, qui demandent une certaine patience à la population de Moutier. On n'est pas là pour brusquer, on n'est pas là pour faire un mélange des genres. Il faut respecter le travail de la justice. Quand bien même, tout en faisant cela, on est aussi en droit de se demander si traiter 9 recours ou de ce qu'il en reste, en tout cas, hein, parce que c'est vrai que le ministère public a déjà débroussaillé et puis qu'il y en a qui sont en plus déjà traité, si plus d'une année pour traiter quelques recours, dont certains semblent farfelus et d'autres infondés, on se pose la question de savoir si c'est vraiment, vraiment démocrate de le faire ou s'il n'y a pas quand même une volonté de ralentir. Alors on attendra, mais le 16 juin, pour revenir à votre question, effectivement ça doit être une démonstration importante. Et j'irai même plus loin. Aujourd'hui, ce n'est pas 52% des prévotois qui doivent être là le 16 juin. Moi, j'appelle à mes voeux de voir des personnalités autres. Par exemple, il y a eu des propos très importants tenus dans le quotidien jurassien il y a peu par M. Christian Kropf, que tous les prévotois connaissent. Et c'est le genre de personnes qui œuvrent pour le bien-être de la ville, pour que Moutier aille de l'avant. Et toutes ces personnes-là seront là le 16 juin. Ce sera effectivement une grande démonstration.
On l'a bien compris, mobilisation. On vous retrouve dans un tout petit instant.
Place publique. Gabriel Devecq.
Et on retrouve nos deux invités pour faire le point sur cette incertitude qui règne à Moutier, puisque le sort de la votation, bientôt un an après, n'est toujours pas scellé. André Doriot, on l'a dit, l'attente se prolonge. Pas de décision attendue avant l'été, voire l'automne, selon certaines rumeurs. Et quoi qu'il arrive, de nouveaux recours, on pourra l'imaginer, seront déposés, quelle que soit la décision. On peut le dire, le sort de Moutier est tout sauf prêt d'être connu. Pour vous, l'attente, c'est plutôt une bonne chose, c'est l'espoir qui grandit de jour en jour.
Dans un sens, ça nous fait connaître. On arrive à développer notre mouvement. Plus l'attente est longue, plus notre mouvement va s'étoffer.
Donc pour vous, c'est une bonne chose. Comment vous prévoyez la suite de la mobilisation? On peut s'imaginer que le 16 juin, le samedi avant le 18, il y a une grande mobilisation des séparatistes qui vont ramener du monde à Moutier. Vous allez assister peut-être à de nouvelles scènes de liesse qui célèbrent en fait l'année de ce scrutin. Vous-même, comment vous allez marquer les esprits avec votre mouvement?
Le 18 juin, ça ne nous concerne pas. C'est la fête des séparatistes, vous venez de le dire. Je pense qu'ils vont mobiliser des cars pour venir depuis Delémont fêter à Moutier, comme ils l'ont fait le 18 juin.
Et vous voyez comment la suite, dans vos scénarios, dans votre stratégie, vous pensez que le sort de Moutier devra attendre encore combien de temps? Vous voyez, vous déployez votre action durant combien de temps?
Le résultat du vote de Moutier n'est pas suffisant pour transférer Moutier dans le canton du Jura. Il ne faut pas oublier que les autorités politiques des deux cantons doivent encore débattre de cela.
Pour conclure,
au Grand Conseil bernois, et en fait, contre le peuple bernois doit encore se prononcer.
Et donc, vous espérez sensibiliser le peuple bernois à Moutier et les élus pour obtenir gain de cause?
Tout à fait.
Très bien. Valentin Zoubert, André Doriot, merci infiniment d'être venu dans Place Publique pour nous donner votre sentiment sur la situation actuelle. On sera évidemment attentif à ce qui va se passer ces prochaines semaines, ces prochains mois. On vous souhaite une bonne suite, une bonne soirée même. Et à bientôt.
Merci à vous, bonne soirée.
Place publique.
Les opposants aux éoliennes sont plus remontés que jamais, avec une pétition lancée hier par plusieurs personnalités romandes contre le projet Chasseron Creux du Vent entre Vaud et Neuchâtel, plusieurs personnalités bien sûr et des associations, ou encore ces opposants en donnant de la voix comme hier dans le Val-de-Ruz lors d'une séance d'information au sujet du parc des Quatre Bornes, soit 11 éoliennes prévues à la Joue du Plane entre Neuchâtel et Berne, et le combat risque d'être particulièrement vif ces prochains temps dans l'arc jurassien. Mais peut-on encore diaboliser les éoliennes, alors qu'il y a un an, le peuple suisse s'est clairement exprimé en faveur des énergies renouvelables, en approuvant la stratégie énergétique 2050, a fortiori dans nos régions. Alors on ouvre le débat dans Place Publique avec nos deux nouveaux invités. Michel Fior, bonsoir.
Bonsoir.
Vous présidez l'association Paysages Libres Béjune, vous êtes opposé aux éoliennes. Et Laurent Debrot à vos côtés, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes député des Verts au Grand Conseil de Châtelois, vous soutenez l'implantation d'éoliennes. Alors Michel Fior, on commence par vous. Le peuple suisse a donné un signal clair, on l'a dit. Est-ce qu'il y a pas une forme de déni démocratique à vouloir combattre systématiquement tout projet de parc éolien prévu dans l'arc jurassien?
Alors, je ne crois pas qu'il y ait de déni démocratique. Je crois qu'un des premiers éléments à dire ici, si on parle de démocratie par rapport à la question éolienne, c'est ce qui s'est passé il y a deux mois dans la commune de Lapra, dans le canton de Vaud, commune qui a décidé de manière tout à fait démocratique de refuser un projet éolien, celui du Mont Landru. Visiblement, cette décision n'a pas plu à la commune qui a décidé, un mois plus tard, de faire revoter sur exactement le même dossier après avoir, on va dire, informé, entre guillemets, la population sur la question. C'était plus une farce, cette information. Et puis évidemment, faisant le porte-à-porte pour convaincre tous les habitants de ce qu'il fallait voter. Finalement, ça a été accepté, de justesse, mais ça a été accepté. Donc en matière de démocratie, je crois que nous n'avons pas vraiment de leçons à recevoir du lobby éolien.
Mais ce qu'il faut dire au niveau suisse est quand même, sans contestation aucune, un résultat large. Est-ce qu'il n'y a pas un déni à ne pas entrer dans la logique de ce vote?
Alors sur le fond, il y a deux choses à dire. La loi sur l'énergie que nous avons accepté, que le peuple suisse a accepté en mai de l'année passée, en fait, il prévoit la sortie progressive du nucléaire et son remplacement par des énergies renouvelables. Cette loi ne dit d'une part pas que l'éolien est absolument nécessaire pour sortir du nucléaire. Elle ne fixe aucun objectif pour l'éolien. Elle fixe des objectifs pour les énergies renouvelables. Et donc, on a la possibilité, encore maintenant, de sortir du nucléaire en mettant plus l'accent sur le photovoltaïque, par exemple, et sans passer par l'éolien.
Laurent Debrot, on l'entend, hein, les énergies renouvelables, c'est une chose, les éoliennes, c'en est une autre. Il n'y a pas de déni démocratique à vouloir encore prioriser sur une technologie plutôt qu'une autre, une technologie peut-être moins invasive, hein, les panneaux solaires.
Bon, je dirais que le canton de Neuchâtel, outre la votation sur la stratégie énergétique 2050, où le vote est assez clair, on a eu un autre vote qui était quand même beaucoup plus précis, c'était sur le concept éolien, où on définissait extrêmement clairement les objectifs du canton, et puis qui a passé à 67% de la population, y compris dans les communes qui étaient les plus impactées par les projets éoliens, comme le Val-de-Ruz et le Val-de-Travers. Donc, je crois que le canton de Neuchâtel a très clairement, les électeurs du canton de Neuchâtel ont très clairement dit leur position sur l'énergie éolienne. Et puis c'est vrai que c'est un petit peu regrettable de revenir chaque fois sur ces problèmes démocratiques.
Tout de même, Laurent Debrot, la question elle divise, hein, y compris dans vos rangs, les Verts. Vous ne comprenez pas quand même que certains se mobilisent pour ne pas voir un jour dans l'arc jurassien, et c'est l'avertissement de Paysages Libres, Michel Fior aura l'occasion peut-être de le rappeler, de voir un jour 160 éoliennes sur nos crêtes. Est-ce que vous ne comprenez pas que l'impact, ne serait-ce que sur le paysage, importe quand même à certains habitants?
Oui, alors effectivement, l'impact sur le paysage, il est indéniable, ça c'est sûr. Il faut relativiser ce que ça veut dire un paysage. Ça veut dire que le paysage, c'est une construction humaine. Le paysage qu'on a actuellement, c'est pas le même paysage qu'on avait il y a 2000 ans en arrière, et puis encore moins celui qu'on avait il y a 15 000 ans en arrière, avec 800 mètres de glace par-dessus. Donc le paysage, il est évolutif. Et puis c'est intéressant parce que le terme même de paysage, il est intéressant parce que c'est un terme qui vient de la Renaissance. C'est un format de paysage, c'est un format de tableau. Donc avant, on connaissait les portraits, et puis on a commencé avec les paysages. Et puis les paysages, c'était traditionnellement de la nature, mais toujours avec un impact de l'homme, en présentant un pont, un mur ou un canal, par exemple. Donc c'était une façon de magnifier le travail de l'homme à travers la nature. C'est le terme même de paysage.
Alors là, on arrive presque à un combat philosophique, mais tout de même, Michel Fior, c'est un des arguments clés des opposants, c'est cet impact du paysage, c'est cette dénaturation d'un milieu préservé, l'arc jurassien, y compris dans des zones sanctuaires comme le Creux du Vent. Est-ce que c'est vraiment un argument qui pèse lourd face aux enjeux énergétiques? Est-ce qu'on n'est pas là dans une notion un petit peu esthétisante plutôt que vraiment nécessaire?
Alors, on est peut-être dans une notion esthétisante, mais il n'y a pas qu'une notion esthétisante. Parce que d'une part, on parle du paysage, mais il n'y a pas que le paysage. Il y a aussi un élément absolument fondamental qui est la biodiversité, donc toute la faune, elle est. On sait en Suisse qu'on a un gros problème avec la biodiversité, puis je pense que ce n'est pas Laurent Debrot qui va me contredire sur ce plan-là. Et c'est clair que le développement d'éolien dans les proportions qu'on connaît est un véritable problème. Et ce que j'aimerais quand même dire sur la question de la planification de Châtelois, c'est vrai, Laurent Debrot a très justement dit que, quand on parle de démocratie, que le canton de Neuchâtel a validé cette planification éolienne. Mais là, il faut aussi signaler la chose suivante, c'est une décision au niveau cantonal. Mais le canton, ou pas, a fortiori par exemple les communes, lorsque la votation est communale, n'est pas le seul à pouvoir décider en la matière. On n'a pas en Suisse, au niveau fédéral, d'instance qui vérifie si les décisions cantonales sont compatibles avec le droit suisse, raison pour laquelle à un moment, on a donné des droits de recours à des associations comme le WWF par exemple, comme Pronatura, qui ont pour but justement de servir en quelque sorte de test et de correcteur lorsqu'un projet, typiquement un projet éolien, est contraire au droit fédéral. Et c'est ce qui se passe maintenant. Et c'est pas contradictoire avec la démocratie, c'est juste l'étape après la démocratie, on passe devant les tribunaux pour voir si effectivement un projet est compatible avec la loi sur la protection de la nature, du paysage, avec toute une série d'ordonnances. Donc on est tout à fait dans la démocratie, dans le fonctionnement démocratique des institutions suisses.
Bon, c'est un petit peu particulier parce que là maintenant vous parlez de droit de recours que je conteste pas du tout, et puis c'est effectivement la base même de l'aménagement du territoire. En l'occurrence, vous venez de lancer une pétition. La pétition ne fait pas partie des outils démocratiques. Directement, disons, Et là, je ne sais pas, est-ce que vous estimez que vous avez épuisé tous les droits de recours ? Auquel cas, c'est un petit peu dommage de revenir maintenant avec une pétition. Les droits de recours mettent en avant le problème typiquement de la d'innuisance. Et ben, typiquement, on a eu, sauf hier, avant-hier, un arrêt du tribunal fédéral sur le projet de Grange, qui était très clair et qui a débouté les opposants aux éoliennes. Donc, et on a actuellement des quantités innombrables d'études qui se font sur la biodiversité, et puis pas seulement des études maintenant sur les parcs qu'on a, mais on a aussi des observations. En Europe, par chance, comme on est les derniers à planter des éoliennes, on profite de tout ce qui se passe en Europe. En Europe, il y a plusieurs dizaines de milliers d'éoliennes qui fonctionnent, et on sait maintenant que l'impact sur la nature est négligeable.
Michel Fior, est-ce que cette croisade n'est pas perdue d'avance, sachant tous les enseignements qu'on peut tirer des projets à l'étranger, sachant que le tribunal fédéral applique une jurisprudence apparemment favorable à l'esprit de la votation de l'année dernière, les éoliennes font partie de l'intérêt national. Est-ce que vous, avec les pétitions ou avec vos démarches, est-ce que vous n'êtes pas en train de combattre contre des moulins à vent ?
Alors, c'est pas un combat qui est perdu d'avance. C'est un combat dont on ne connaît pas l'issue, ça c'est certain. Il y aura sans doute des projets qui vont se réaliser, je crois qu'on peut pas le nier, mais il y en aura très certainement une grande partie qui vont pas se réaliser. Et pour quelle raison, dans le fond ? La comparaison avec le reste de l'Europe, elle pose quand même un petit peu problème, parce que je crois quand même qu'en termes de densité de construction, la Suisse est quand même un cas à part. On a un pays extrêmement densément bâti. On peut pas comparer ça avec ces larges plaines de l'Allemagne où vous pouvez sans problème planter un parc éolien, le premier riverain est à 2 ou 3 kilomètres. En Suisse, et je crois que le débat de hier soir à Fontainebleau l'a très clairement précisé, on vient avec des machines qui font, et on le sait maintenant depuis hier soir, 207 mètres, qu'on veut mettre à 300 mètres d'une habitation. 300 mètres. Donc je vous laisse imaginer ce que ça signifie. Me faire une machine de 200 mètres, 207 mètres à 300 mètres d'une habitation. On est juste en Suisse face à des problèmes d'aménagement du territoire que n'ont pas d'autres pays. Et se pose aussi toute la question du paysage. Je crois que la Suisse aussi, peut-être en comparaison aussi avec d'autres pays, est connue pour son paysage. Les gens viennent pour le paysage. Le 8 mai, lorsque nous avons fait cette conférence de presse au Chasseron, c'était jour férié en France, il y avait beaucoup de Français qui se promenaient sur les crêtes au Chasseron. On leur a expliqué ce qui allait se passer là au Chasseron, mais ils tombaient des nues, qu'on puisse détruire ce paysage pour lequel ils sont venus.
Laurent Debrot, est-ce que vous ne craignez pas, vous qui êtes pro-éolienne, qu'une fois que ces projets vont devenir concrets, un par un, avec ces séances d'information qui voient le jour un peu partout, que les habitants commencent à réaliser que peut-être ils ont voté un principe, mais qu'une fois que ça va être concrétisé, une fois que les hélices vont noircir leur horizon ou le blanchir, ça va peut-être être différent et ils vont prendre peur. Est-ce que vous ne croyez pas que là, il y a une brèche pour l'opposition ?
Non, parce que les parcs éoliens, et puis on a la chance d'avoir un parc éolien tout près de chez nous, donc et on voit qu'il n'y a pas eu de recours, la population accepte, il y a des redimensionnements des éoliennes maintenant. Juvon vient de remettre des nouvelles éoliennes encore plus hautes que celles d'avant, il n'y a pas eu d'opposition. Et la population, typiquement de Sonvilliers, qui est la dernière, sauf erreur en date, d'une votation populaire, ce n'était pas une votation officielle, c'était un sondage. Où il y avait 75% des habitants qui soutenaient les projets éoliens alors qu'ils ont des éoliennes à quelques kilomètres de chez eux. Et donc on ne peut pas dire que les gens ne connaissent pas. Et je vois qu'en général, c'est plutôt les habitants qui sont éloignés des parcs qui sont les plus farouches opposants.
Eh bien, on verra ce que pensent les habitants de Sonvilliers puisqu'ils ont prochainement une séance d'information. On y sera avec RJB, on en rendra compte. Et le débat continue, on l'a bien compris, puisque la bataille est loin d'être terminée. On vous souhaite une bonne soirée, messieurs. Michel Fior et Laurent Debrot, merci d'être venus dans Place Publique.
Bonne soirée.
Merci. Bonne soirée.
Place Publique.
La Coupe du monde de football débute dans 5 semaines en Russie. Dès le 14 juin, la Russie, pays hôte, affrontera l'Arabie Saoudite. Durant un mois, le football sera roi. C'est dire si on aura l'occasion d'évoquer les aspects sportifs de la compétition, bien sûr, sur nos antennes. Mais ce soir, on vous propose de faire la lumière sur les enjeux politiques de l'événement pour la Russie, bien sûr, et pour la Fédération internationale de football, la FIFA. À écouter maintenant notre entretien avec Patrick Oberli, journaliste d'investigation, responsable des pages sportives de 24 heures du matin, auteur notamment d'un web documentaire intitulé Hors-jeu, qui lui a valu d'être distingué par le prix Jean Dumur il y a 2 ans. Bonjour Patrick Oberli.
Bonjour.
Alors on y est, hein, la Coupe du Monde de football, c'est dans à peu près 5 semaines. Vous allez partir tantôt en direction de la Russie. Alors à 5 semaines du coup d'envoi du Mondial, tout semble prêt. Il y a même le président de la FIFA, Gianni Infantino, qui a déclaré qu'il s'agirait du plus beau Mondial de l'histoire. Est-ce que c'est aussi votre pronostic ?
Le plus beau Mondial de l'histoire, on le saura après. Mais effectivement, la tension monte, l'euphorie monte. On le voit avec les Panini. Après chaque grand événement, l'événement sportif est toujours le plus beau avant et pendant et jusqu'à la cérémonie de clôture. Mais on voit avec Sochi ou Rio que le plus beau peut vite devenir un peu laid ou un peu lourd quand on voit les problèmes de dopage à Sochi ou de corruption à Rio.
Alors on va tenter pendant ces quelques minutes, Patrick Oberli, de faire la lumière sur les côtés peut-être un peu moins reluisants de cet événement justement. Et il semblerait qu'aujourd'hui, une enquête est toujours en cours hein, pour savoir ce qui s'est passé lors de l'attribution du Mondial, que ce soit pour la Russie et pour le Qatar. Est-ce qu'on peut s'attendre dans le sillage de cet événement à de nouvelles révélations ?
Dans le siège de l'événement, peut-être qu'on va s'attendre à des révélations. Effectivement, une enquête est en cours, notamment en Suisse, par le ministère public de la Confédération. Cette enquête porte sur la double attribution, pas simplement la Russie, mais la double attribution des Coupes du Monde à la Russie et au Qatar. On a appris il y a quelques semaines que rien ne viendrait du ministère public avant la Coupe du Monde, ce qui peut se comprendre. C'est aussi un peu politique, je pense. Mais une fois que l'événement sera passé, bon, on aura peut-être des conclusions, mais ça changera plus grand-chose. Maintenant, le paquebot est lancé et c'est un peu terminé, quoi.
La Russie, elle a été mise au banc des nations, on s'en souvient, hein, en raison des scandales de dopage, c'était durant les Jeux Olympiques. Qu'en est-il au niveau du football ? Est-ce que la FIFA détient des garanties ou cherche à en avoir au sujet de la Russie ? Est-ce qu'elle fait usage de méthodes interdites ?
Alors ça, c'est un vaste problème. Je pense que ça dépasse le cadre de la Russie et du dopage. Le football et le dopage, ça a toujours été un peu un tabou. On le voit depuis 40 ans. Maintenant, certaines choses sortent sur ce qui s'est passé dans les années 70, 80, 90. Il y a toujours eu un peu des soupçons. Maintenant, dans la liste des échantillons qui ont été analysés ou récoltés du laboratoire de Moscou, il y a effectivement des footballeurs. Ce que fait le football et la FIFA, il y a, je crois, des enquêtes qui sont ouvertes, mais on n'est pas du tout dans la même thématique que l'athlétisme ou le ski de fond. Et je pense que le dopage ne sera pas un thème avant la Coupe du Monde.
Le pays hôte, donc la Russie, ne semble pas vraiment briller ces temps-ci sur le plan sportif. On parle bien de football. On se souvient davantage des hooligans que des joueurs. Est-ce que la Russie, sur ce coup, sur ce mondial, joue gros pour son image ? Est-ce qu'elle risque la désillusion ?
Elle pourrait risquer la désillusion, mais je pense que c'est tellement important pour le pays que tout se passe bien. J'ai l'impression que tout va bien se passer. Je ne suis pas certain qu'il y ait des heurts comme on a vu en 2016 à l'Euro à Marseille, je crois, entre hooligans russes et anglais. Je pense que ce sera assez bien cadré. Tout le pays a besoin de ça. Tout le pays a besoin de montrer que ça va bien, qu'on peut aller de l'avant, que la Russie peut maîtriser aussi une Coupe du Monde.
Justement, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'instrumentalisation de cet événement par Vladimir Poutine ?
Mais de toute manière, la récupération politique d'une Coupe du Monde de JO, elle est partout, hein, que ce soit au Brésil ou en Russie. Maintenant, c'est vrai que pour Poutine, ça permet de consolider en fait son image d'homme providentiel, ce qu'il est, hein, quand même, pour la Russie, parce que depuis qu'il est arrivé au pouvoir, le PIB a été multiplié par 20 ou 30, et ce qui a permis aux Russes de vivre nettement mieux. Donc pour les Russes, Poutine n'est pas un diable. Hein. Peut-être que c'est l'image qu'il a ici, chez nous, ou dans les pays anglo-saxons, mais Poutine n'est pas un diable. Après, ce qui rejaillit d'une Coupe du Monde, ce qui vient d'une Coupe du Monde, ben c'est bien pour la fierté de tout le monde.
Est-ce qu'il y aura une trêve mondiale, un peu comme la trêve olympique, ou est-ce que les journalistes, y compris dans vos rédactions, vont quand même profiter de cet événement pour parler des aspects peut-être plus contestables du régime en place en Russie ?
Pour parler des aspects plus contestables, il faut peut-être avoir le temps et la mission de le faire. Quand on part couvrir la Coupe du Monde, que ce soit en Russie ou ailleurs, c'est un événement particulier que l'on va couvrir. Maintenant, c'est clair que s'il y a des choses que l'on peut voir sur le moment, que l'on peut sentir, il faut qu'on en parle, c'est notre devoir. Je ne suis pas sûr qu'on puisse le faire, parce que dans ces grands événements, il faut quand même savoir que tout est canalisé.
Justement, vous avez l'impression que les conditions de travail des journalistes sur place, y compris vous-même, seront décentes? Est-ce que vous serez libre de vos mouvements, libre de travailler comme vous l'entendez?
Dans le domaine sportif, je pense que oui. Dans le domaine sportif, je pense que les conditions seront parfaites, comme les Russes savent le faire. On l'a vu à Sochi, il n'y a pas de problème technique. Tout est fait pour que la compétition puisse être relayée de la meilleure manière possible. Après, je ne peux pas préjuger de ce qu'il y aura par ailleurs, si on pourra rencontrer des gens qui sont peut-être contre la Coupe du Monde, ou comment on pourra les rencontrer et qu'est-ce que l'on pourra dire. Tout ça, je vais découvrir ça au mois de juin.
Quel enjeu pour la FIFA? Là, on a parlé de la Russie, mais la FIFA, elle prépare la suite déjà, avec des changements importants en vue, et en plus, son président qui joue sa réélection, Gianni Infantino. Il y a notamment l'idée d'étendre la Coupe du Monde de football à plus de pays. Est-ce qu'on va assister cette année en Russie à la dernière édition de la Coupe du Monde comme on la connaît?
Alors, je ne sais pas si le congrès de la FIFA va décider de passer à 48 équipes déjà au Qatar. Je sais qu'il y a des discussions qui sont engagées. Est-ce qu'elles aboutiront? Ça, je ne sais pas. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a deux Coupes du Monde qui vont se passer en Russie. Il y en a une qui va démarrer avec Russie-Arabie Saoudite le 14 à Moscou. Et il y en a une autre qui va se dérouler la semaine précédente, dans les commissions, les congrès des confédérations et le congrès de la FIFA. Parce que ce congrès de la FIFA, il est juste essentiel pour Gianni Infantino. Plus que la Coupe du Monde à 48, c'est l'attribution de la Coupe du Monde 2026 qui sera au centre du jeu avec le Maroc, qui constitue un petit peu la candidature de contestation d'Infantino face aux États-Unis, Canada-Mexique, et qui est la candidature préférée depuis plusieurs années de la FIFA, et qui est un peu la candidature de l'argent. Et on voit qu'il y a une grosse bataille géopolitique qui se passe actuellement. En fait, Infantino devra trouver un moyen, si le Maroc passe par exemple, de garder les voix de ceux qui étaient proches des États-Unis, qui ont aidé à son élection en 2016. Et là, trouver un consensus pour pouvoir obtenir après les 110 ou 112 voix qui seront nécessaires à sa réélection, c'est très difficile. Mais il y a plein d'autres choses encore qui se jouent durant ce congrès. On a entendu vaguement parler d'une Coupe du Monde des clubs qui est mise en route, et surtout d'une offre complètement mirobolante de fonds asiatiques qui propose $25 milliards pour prendre l'organisation et la gestion de cette Coupe du Monde des clubs jusqu'en 2030 ou dans ces environs-là. Pour la FIFA, ce sont des rentrées exceptionnelles. Et comme les fédérations nationales qui sont dans la FIFA ont toujours besoin d'argent, ça peut faire parler. Infantino doit aussi régler les problèmes de transfert et les problèmes d'agents. Jusqu'à présent, peu a été fait dans les deux dernières années, mais l'offensive maintenant est lancée pour une nouvelle régulation. Là aussi, ce sera beaucoup de discussions politiques pour ne pas se mettre à dos certains pays.
Patrick Oberli, on le rappelle, vous avez enquêté sur les coulisses peu reluisantes du football, de la FIFA, notamment les rapports entre ce monde-là et l'argent. Votre web documentaire Hors-jeu vous a valu le prix Jean Dumur. Il vit toujours sa vie en ligne. D'ailleurs, on invite nos auditeurs à le découvrir, votre web documentaire Hors-jeu. On a l'impression qu'il n'a pas pris une ride aujourd'hui.
Hors-jeu a été diffusé juste avant l'Euro 2016. Il parlait du fric dans le foot, pour la faire courte. Depuis 2016, rien n'a changé. À la limite, il y a encore plus d'argent dans le football. Et je pense que les problématiques sont exactement les mêmes et qu'on peut réécouter en fait chacun des intervenants pour se faire une idée de ce qui se passe vraiment dans le football.
Place publique.